Alors, là, pour répondre à la question de Roger. Pour tout ce qui est les contenus informatiques, tout que ce soit les fichiers, les photos, les sons, les images, tout ce qu'on veut, on a trois approches pour, disons, envoyer dans le futur. La première consiste à dire, c'est la plus utopique, il y a un format parfait qui va durer longtemps dans la photo, on dit que c'est TIFF. Donc, transcodons toutes nos photos à TIFF. TIFF va durer. Et donc, j'ai un fond photo, il est tout en TIFF. Toutes mes photos, tac, tac, systématiquement, j'ai un petit moteur qui me les transcode en TIFF et les met sur un disque dur. Et puis, je fais trois copies de ce disque. Et puis, je suis garanti pour l'éternité. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est le rêve de la sauvegarde passive. C'est-à-dire, trouver et le format éternel, et le support éternel. À une époque, on parlait de... On en parle toujours, le CD de verre, de cristal d'ailleurs, qui coûtait 150 euros le CD, seul, et qui avait une durée de vie de 1500 ans. Alors tout le monde fantasmait là-dessus, mais il y a un autre problème. Ok, le CD va durer... Mais est-ce qu'on sera capable, probablement oui, de lire un CD dans 1000 ans? Je ne fais pas trop de problèmes là-dessus. La deuxième solution, c'est échanger continuellement. Donc, j'ai quelque chose maintenant, dans 5 ans, je le change, dans 10 ans, je le change, tous les 5 ans, je le change, avec quand même, moyennant, un processus de vérification à chaque changement que les contenus sont quand même... Et là, on est devant des grands problèmes de l'informatique. Je vous fais écouter maintenant une œuvre de 1948, une œuvre de Schaeffer, une étude. J'entends quelque chose. Comment je sais que ce que j'entends est ce que je devrais entendre? Qui me garantit cela? Ouais, parce que j'ai pas de manière de juger de la qualité, surtout que d'un point de vue actuel, la qualité est très mauvaise. Alors bon, on commence à faire la part des choses entre la dégradation des supports analogiques et la dégradation des supports numériques. On connaît les problèmes, on a des outils qui permettent de mesurer s'il y a eu un changement, même minimal, entre une copie et une autre. Mais il y a une expérience terrible qui a été faite il y a quelques années, qui consistait à prendre un texte, une page, de le sauvegarder sur RTF, l'ouvrir, le re-sauvegarder sur RTF, et faire ça, c'est pas 500 fois. Même processus. Au bout de 500 fois, il était illisible. J'avais du texte, mais je n'arrivais pas à le comprendre. À chaque formatage, disons, il y avait une petite erreur qui s'est glissée. Au bout de 500 erreurs, c'était une grande erreur, et donc on n'arrivait plus à lire, à accéder au contenu. Donc maintenant, on a mis en place justement, ça c'est une expérience des fins des années 90, des méthodes qui permettent de vérifier l'intégrité d'un fichier, pour savoir si le fichier B correspond exactement à une copie exacte du fichier A. Et alors, dans ces transmissions, il se peut qu'au milieu de chemin, je dois faire un transcodage. Vous connaissez tous le format flash. Flash est en train de mourir. Donc tout ce qui est en flash, il faut le transcoder sur autre chose. Tout ça est généralement lié, toute cette migration, le changement continu, est lié souvent à quelque chose qui est utilisé beaucoup, qui est une autre question. L'INA adopte la première méthode et la deuxième méthode. La première méthode consiste à dire, on va prendre tous nos contenus images, et on va les transférer tous sur un format unique, le même. Comme ça, si dans 10 ans, nous devons changer, ou dans 15 ans, c'est des temps beaucoup plus longs, on doit faire tout d'un seul format à un nouveau format. Mais on n'a pas, comme maintenant, 50 formats différents à gérer. Et entre-temps, puisque les contenus de l'INA sont demandés en permanence, il faut que je suive le format qu'utilisent les producteurs. Les producteurs, la production télé, travaillent même aujourd'hui fondamentalement en MPEG 2. Il y en a qui font un MPEG 4. Mais entre-temps, est arrivé la HD, donc on change de format aussi. Donc voilà toutes les problématiques liées à l'utilisation. Et la troisième méthode, qui a son sens également, je ne fais rien, on verra plus tard. Donc j'écris un texte en Word 1, en 1981, et je garde le fichier quelque part. Et puis, quelqu'un, dans 50 ans, sera capable de m'ouvrir le Word 1. Ça s'appelle un émulateur, c'est-à-dire quelque chose qui va simuler l'environnement d'origine et permettre à un fichier d'être ouvert. On le fait beaucoup pour les jeux, maintenant. Tetris, tout ça, il y a des émulateurs de Tetris, vous avez le Tetris sur... Mais émulateur, ça veut dire pas faire un Tetris meilleur, avec la même qualité graphique. C'est reproduire ce qu'on peut appeler l'originalité du support initial. Donc les trois méthodes sont valables. Et la troisième est redoutable parce que il y a un certain nombre d'archives nationales, Australie entre autres, qui dans la loi dit que les contenus numériques doivent être conservés dans le format original. Et c'est pas, c'est beaucoup de boulot, mais c'est pas con. Parce que, sans rentrer dans des considérations éthiques très profondes, j'ai ma photo argentique, je la scanne, je la numérise, je fais un fichier TIFF. J'ai radicalement changé le contenu initial, la nature de cette information. Pour le moment, personne ne s'est plaint. Parce qu'on a mis en avant, on est en train de sauvegarder, sinon ça va disparaître. Mais d'un point de vue éthique, je pense que c'est le meilleur mot, il y a un changement radical de la nature de l'information. Et donc là, ce type de loi essaie de dire, non, gardons l'information numérique dans son état initial et débrouillez-vous pour... Si j'en parle, c'est parce qu'il y a une logique et parce qu'il y a des solutions aussi qui existent. Non, d'accord, mais transfert, ok. Tu as
forcément la notion de bruit qui est bien et une déformation. Si tu fais du numérique, ça fait une copie, c'est un transfert de données.
Oui, mais dans ce transfert, il y a de temps en temps un transcodage. Et là, surtout quand on va compresser l'image, par exemple. Et puis on va la décompresser, on va la recompresser. Et à chaque fois, ça ajoute des artefacts, des petites déformations qui ne sont pas tout à fait perceptibles pour un œil moyen, mais qui, en tant qu'artiste, je peux me plaindre justement que... En même temps, il y a des expériences comme le Rijksmuseum à Amsterdam qui vend des photos à 30 000 euros avec un niveau de définition, la ronde nocturne de Rembrandt, mais avec c'est des millions de pixels... par centimètre carré, c'est-à-dire une ultra, ultra résolution, mais ils font payer le prix de la qualité, justement, d'arriver à une définition tellement élevée qu'on ne peut pas dire qu'il y a une différence. Bon, alors, nous, être normaux, qui travaillons dans le domaine de la production, nous sommes confrontés à la barrière de la conservation. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les heureux élus qui produisent des contenus, des artistes, des qui vous voulez. Et puis, de l'autre côté, il y a des pauvres mecs dont le boulot, c'est de sauvegarder les contenus pour le futur. Les archivistes, les bibliothécaires, les conservateurs. Regardez tous les mots, archivistes, conservateurs. C'est des mots qui font peur, hein. Et le problème, c'est que les deux sont dissociés. Vous faites votre œuvre, et puis quand vous avez terminé, vous dites, tenez Daniel, archivez-moi ça. Et moi, archiviste, je dois aller essayer de comprendre le mieux que je peux votre œuvre, essayer de mettre en place la meilleure stratégie possible pour assurer, à partir de ma compréhension, ce que je dois conserver de votre œuvre. C'est comme ça que l'humanité a fonctionné jusqu'à présent. Donc nous, on essaye un peu de casser cette logique inéluctable, parce qu'on n'aura jamais assez de temps pour faire tout ce boulot. Comme j'ai dit, il y avait 300 000 heures d'audio à l'INA qu'on n'allait pas documenter. Parce qu'on considérait que c'était trop cher, ça ne valait pas la peine. Et quand on analyse la quantité d'informations produites quotidiennement, je sais pas, les 70 000 heures je sais pas, par jour de YouTube, etc., on ne va jamais se mettre à décrire tout ça. Alors, comment se passe la conservation? Ça, j'ai déjà parlé un petit peu. Dans la méthode de la musique traditionnelle, il y avait les partitions, les instruments et la pratique. Et tiens, regardez, on retrouve notre fameuse transmission orale. Je peux vous donner un piano, je peux vous donner toute la littérature que vous voulez, vous n'arriverez jamais à jouer du Chopin. Vous arriverez à comprendre, à m'en mettre les doigts, etc., à lire tout seul. Toutes ces techniques sont transmises de manière orale. Que vous étudiez la théorie, vous étudiez le solfège, mais quelqu'un vous dit comment jouer. Ça, c'est extrêmement fort dans la tradition musicale traditionnelle, avec, bien sûr, l'art de l'interprétation a souffert, beaucoup de souffert, est passé par différentes étapes. On ne joue pas Chopin comme on jouait il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans. D'ailleurs, on n'a pas la moindre idée comment Chopin jouait. Et s'il aurait été content. Donc, voilà un modèle extrêmement bien rodé, avec à droite, à gauche, tout ce qui est produit, et à droite, des métiers identifiés pour conserver, bibliothèque-musée pour les partitions, les bibliothécaires, luthiers, pour les partitions et pour les instruments, c'est-à-dire des gens qui s'occupent d'une part de conserver le papier et d'autre part de conserver l'instrument avec lequel on peut jouer ce papier. Et entre-temps, le conservatoire, c'est pas bête comme nom, s'occupe de perpétuer la tradition de transmission avec des transmisseurs professionnels qui s'appellent les profs de musique. Voilà le modèle qui s'est construit à travers le temps, avec de temps en temps on coupe des branches, des instruments disparaissent, des musiques disparaissent, sont oubliées, sont retrouvées, sont perdues, etc. Dans le modèle contemporain, c'est pas exhaustif ce que je présente là, nous avons d'une part des partitions et des médias. Je mets ça en bleu parce qu'on sait faire ça. Je sais conserver une partition, je sais conserver une média grâce à mon modèle là. Et donc, bibliothécaire, musée, luthier, etc., tout ça est identique. Mais je me retrouve devant un tas d'informations nouvelles, instructions d'interprétation, machines spécifiques, diagrammes logiciels, systèmes opérationnels, ordinateurs d'exception fonctionnelle, et qui est censé garder ça? Quel est ce nouveau métier qui n'est jamais apparu, qui est celui de l'archiveur numérique d'œuvres artistiques? Il n'y en a pas. Il y a des gens qui veulent le faire et le font, des compositeurs dans notre cas, qui se sont beaucoup investis pour garder tout ça. Et puis les bibliothèques et les musées qui suivent comme ils peuvent. Vous allez au musée de la musique à Paris, il y a tout un étage d'instruments technologiques. Il y a une console qui était au GRM, il y a un Citer, il y a un Upic, il y a un 4X. Mais on ne peut que s'émerveiller dans la contemplation de l'objet. On n'a pas la moindre idée comment ça marchait, comment ça sonnait et à quoi ça servait. Alors, donc une œuvre musicale contemporaine, c'est des partitions médias et toute une série d'éléments qui contribue à l'existence de l'œuvre, et je n'ai pas inclus là-dedans toute la connaissance induite qu'a le créateur. C'est quoi la connaissance induite ? Je me rappelle comment j'ai fait. Je sais ce que j'ai voulu faire. Dans la partition, on arrive à peu près à exprimer une grande partie de ça, bien qu'il y a des choses que le compositeur ne va pas écrire sur la partition, ce sera l'interprète plutôt de deviner ou d'interpréter. Mais l'exemple le plus fort de connaissance induite, c'est votre ordinateur. Donc vous ouvrez mon ordinateur, j'ai des disques durs, j'ai des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, des sous-sous-sous-dossiers, et je mets des choses d'un côté, je mets un côté de l'autre. Moi, vous ouvrez, vous dites, mais théologie, c'est un bordel total. Moi, je m'y retrouve parfaitement. C'est moi qui ai une connaissance. Et comment je formalise cette connaissance ? Comment je peux extraire, condenser cette connaissance de manière à être transmissible à quelqu'un d'autre ? Voilà tout le problème du domaine créatif. Alors, peut-être qu'il nous faut redéfinir l'œuvre musicale. Elle est quoi ? Donc, elle peut être faite de tout ça. Elle peut être faite de tout ça. Donc, j'ai mis en bleu toujours ce qu'on sait conserver. Nouvelle lutherie, j'ai fabriqué un instrument particulier, ça peut être physique, des logiciels, des systèmes opérationnels, des ordinateurs, j'ai un équipement particulier, l'Atari en question. J'ai écrit un certain nombre d'instructions d'interprétation, c'est-à-dire que l'interprète, à un certain moment, doit monter sur le piano et faire du flamenco sur le couvercle du piano à queue, bien sûr, etc. On a vu des œuvres où le compositeur, l'interprète, se mettait dans le piano à queue et fermait le couvercle, des choses comme ça. Bon, là c'est plutôt rigolo, mais il peut y avoir des instructions extrêmement précises. Et des diagrammes, sans parler de quelque chose qui nous échappera toujours, ou presque, c'est comment ça doit sonner. Comment je juge de la qualité du résultat. Je ne vais pas trop parler de ça. Donc, il y a non seulement tout ça, mais il y a des schémas de relations et des dépendances entre les composantes. Donc, comment je fais pour garder tout ça ? Donc, la première chose qu'on a faite, c'est essayer de déterminer, de faire une liste raisonnée de ce qu'il y aurait à garder. Quels sont les éléments qu'on devrait garder pour être un petit peu à l'aise dans la conservation ? Je signale que quelqu'un de chez nous, c'était bien parce que c'était payé par un projet de recherche, mais il a passé 6 mois à essayer de reconstruire une œuvre. Reconstruire une œuvre. C'est-à-dire, c'était une œuvre instrumentale. C'était pas très compliqué technologiquement, c'était un orchestre. Et il y avait des ondes Martenot et il y avait 3 synthétiseurs qui jouaient des sons. On avait la partition. On avait les instructions pour les synthétiseurs, il faut jouer un Do à tel moment, un Mi, un Ré, un Fa, mais on n'avait rien sur les sons. On avait un enregistrement du concert, donc on a essayé à l'écoute, d'identifier quels étaient les sons. On savait quel était le synthétiseur de l'époque, un DX7, donc on a essayé et on a réussi, avec l'aide de quelqu'un qui se rappelait de 2-3 choses, à reconstruire le son. Mais là, il y a un autre problème qui va arriver tout de suite. Est-ce que je dois refaire exactement le même son qu'au moment de la création ? C'est un problème qu'en musique instrumentale, on ne se pose pas du tout. On n'est pas gêné de jouer sur un piano électrique, sur un piano droit ou un piano à queue. On considère toujours que c'est du piano, que c'est la même œuvre. On n'est pas gêné qu'une œuvre pour clavecin de 1700 soit jouée sur un piano Steinway de 2010. Pourtant, c'est le jour et la nuit au niveau son. Donc, la difficulté aussi, c'est de ne pas faire de ces œuvres des sortes de pièces de musée qui sont figées dans le temps, qu'il faut jouer de telle manière là et pas d'une autre. J'ai un exemple intéressant de ce que je suis en train de dire. Il y a une dizaine d'années, il y a une œuvre un peu mythique de Stockhausen qui s'appelle l'étude 2, qui est une étude de synthèse avec des sons de sinusoïdaux, des bruits blancs, où il a fait un schéma extrêmement précis de comment il a construit l'œuvre, une description très précise des sons. Quelqu'un a dit, mais il n'y a qu'à, je vais la refaire l'œuvre. Je vais mettre des sinus modernes, je vais mettre des bruits blancs modernes, je vais refaire l'œuvre. Ça fait un scandale. Comment on touche à l'intérité? Mais non, lui il avait fait une partition d'un autre type dans laquelle il décrivait tout ce qu'il fallait faire pour... En même temps, c'est vrai qu'en écoutant l'œuvre, on disait que c'est fade, que c'est nul, que c'est ennuyeux. Par contre, l'original, il avait c'est comme les films muets, quand vous les regardez aujourd'hui, vous mettez la barrière de la distance dans votre perception et vous regardez ça comme quelque chose d'ancien. Et le fait que les mouvements sont saccadés, etc., pas à la bonne vitesse, ne vous gêne pas. Pourtant, c'est une analyse d'un point de vue technique, il y a tous les défauts de la Terre dessus. Mais on juge par rapport à un vieil enregistrement pareil. C'est très mauvais. Ah, mais c'est 1918, ou la voix de Brahms. C'est tout ce qu'on entend. On dit, ah, c'est Brahms. Putain, c'est extraordinaire comme mémoire. Alors, donc, on a commencé par décrire. Je ne dis pas qu'il faut faire tout ça. On a essayé de faire une liste aussi exhaustive que possible des choses qu'on devrait garder. Alors, d'abord, se poser la question de que faut-il garder? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est transcendant dans cette conservation? Quelle est la fonction de ce qu'on garde? Est-ce qu'il y a une relation avec une étape précédente? Est-ce que les choses se chaînent? Si je ne fais pas ça, je ne pourrais pas faire ça. Comment réaliser une action? Existe-t-il une description? Quelle est la durée de vie entendue d'un objet, d'une situation, d'une machine, etc. Des questions de ce type qui nous permettent de cibler le périmètre de ce qu'il faut garder. Je vous attends demain matin. Je vous poserai cette question de la conservation. Donc il y a trois actions nécessaires. Identifier et décrire ce qu'il faut garder, organiser la préservation et établir des descriptions fonctionnelles et des schémas. C'est un boulot monstre. Et vous verrez que je ne suis pas tout à fait pessimiste dans ce que je dis. J'essaie d'apporter un certain optimisme et même des solutions. Identification, description, liste des éléments qui interviennent dans une œuvre qu'il faut garder. Pour chaque élément, description de sa fonction et de sa composante en relation avec le résultat final, une description de la relation entre les éléments, un enregistrement de l'œuvre pour en servir comme témoin, toute information complémentaire qui permettra d'aider au processus de reconstruction. Localiser les éléments, où sont, qui les conserve, comment faire pour les utiliser, à qui appartiennent les droits. Il se peut que le compositeur ou l'artiste ait utilisé, une photo d'une œuvre pour son œuvre, et tout d'un coup, cette photo se trouve bloquée parce qu'il y a des droits associés. Numérisation de tous les éléments non numériques. C'est mal dit, ça. Numérisation de tous les éléments numérisables, ça serait. Plan de préservation et migration pour chaque type de média. Et puis, voilà. Tout ce que j'ai dit préalablement par rapport aux fonctions et les schémas. Un exemple, GRM Tools que vous avez vu tout à l'heure. Donc GRM Tools, c'est un principe très simple, je fais entrer un son, je fais bouger les différentes réglettes, j'appuie sur des boutons et le son qui sort est différent. Est-ce que je suis condamné à garder ça? Ou comment je peux faire? Et c'est une question que je vais poser à GRM Tools, pas au compositeur. Comment tu peux me formaliser ce que tu es en train de faire? Dis-moi ce que tu fais. Au lieu de garder ce qu'il fait, dis-moi ce que tu es en train de faire. Vous connaissez cette expression, quand le doigt du sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est-à-dire qu'on a tendance à se concentrer sur des choses banales quand l'information, elle est ailleurs. Donc, dis-moi quelle est l'action que tu es en train de... Décris-moi l'action que tu es en train de faire sur le son. De manière à que demain, je n'ai plus besoin de faire un tool, j'ai simplement besoin de reconstruire cette action. On va transposer d'une tierce vers le haut le son, peu importe. Donc on travaille beaucoup sur justement créer des modèles de description. Ça c'est un logiciel très connu qui s'appelle Max, qui est un logiciel modulaire. On met des modules, on organise sur une page, et surtout on met des milliers des connexions entre les modules. Encore une fois, comment je peux, est-ce que je dois garder ça pour jouer mon œuvre? Ça c'est fondamental pour mon œuvre, mais est-ce que je dois le garder? Là aussi, les gens de Max ont travaillé pour créer un langage qui permet après d'extraire l'information et l'utiliser et l'émuler dans le futur. Pareil ici, un séquenceur audio, je mets des tas de sons disposés n'importe comment. Pas n'importe comment, pardon. Disposés, c'est long. Les critères du créateur. Mais avec, les séquenceurs audio aussi, n'ont aucun moyen de hiérarchisation des composants. On ne sait pas qu'est-ce qui est important là-dedans. Ça peut être la première ligne, la dernière, c'est dans la tête du compositeur. Et voilà. Alors, en sachant que si ça représente une musique, si je dois sauvegarder ça, il y a probablement un millier de fichiers audio associés à cette œuvre. Donc, c'est un problème majeur de conservation. Et c'est un problème que nous trouvons assez souvent parce qu'il faut reprendre les œuvres et on ne sait pas où sont tous les composants.
Mais là, le questionnement de sauvegarde, de rejouer une œuvre, c'est plutôt dans un contexte de concert. Hein, parce que les œuvres telles que celle-ci, ce que vous travaillez de composition,
c'est ce que je croyais, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'on a commencé à enquêter autour des gens qui font de la musique et travaillent avec le son, quels sont leurs problèmes de sauvegarde. Et ça, c'est un problème majeur. Pas tellement pour la musique acousmatique, bien que ça peut l'être. Parce que c'est le fait que, par exemple, l'information que je vous donne vient d'un major de la musique qui s'appelle EMI. EMI a des contrats avec des musiciens dans tout le monde. Donc, ils ont un contrat, mettons, pour donner tout de suite le contexte avec Michael Jackson ou ses héritiers ou quelqu'un de ce type-là. Et la manne financière ne vient pas de la vente du titre, mais des différentes versions qu'ils vont faire du titre. Et ce qui est, j'ai appris à ce moment-là, c'est que dans le contrat qui est signé avec l'artiste, le producteur a le droit de tout faire, sauf d'enlever la voix de Michael Jackson. Il peut changer les instruments à tout moment, il peut passer de la guitare électrique à la guitare acoustique, il peut faire une version courte, il peut rajouter des voix, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut faire des pubs de 10 secondes, il a tous les droits. Et donc, l'information associée à ça est fondamentale. Et le type du EMI me disait qu'ils sont totalement perdus. Parce que, au moins pour les séquenceurs audio, bon, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre comment c'est fait. Quand vous recevez une bande analogique 24 pistes ou numérique 24 pistes ou 32 pistes, ils passent des jours ou des jours où carrément ils laissent tomber. Parce que c'est de l'information non structurée. Donc, c'est un vrai problème pour l'industrie du disque, ça. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Quatre approches.
Excuse-moi.
Oui.
En fait, depuis tout à l'heure, je vous pose une question, mais tout ça, ça... Donc, peut-être une question fondamentale, mais ça précise quelle est la nature de l'œuvre. Est-ce que, par exemple, Beethoven, c'est son partition, ou est-ce que c'est le résultat, etc. va faire la nature de l'œuvre.
Qu'est-ce que vous
faites? Qu'est-ce qui fait la nature de l'œuvre?
Qu'est-ce que vous appelez la nature?
Est-ce que c'est la partition? Est-ce que c'est le résultat de la partition? Est-ce que c'est la musique, du coup? Parce que là, aujourd'hui, on a les capacités d'enregistrer. À la limite, par exemple, le séquenceur, là, quand je fais une piste, j'enregistre. Donc, du coup, c'est pour haut-parleur.
C'est je vais répondre en partie et je répondrai plus loin. Je ne suis pas loin de la fin, hein. Mais je reprendrai tout à l'heure, justement avec mon diagramme initial où je le change encore une fois. La musique traditionnelle, disons, instrumentale, une chose c'est l'intention, une autre chose c'est l'usage. Je peux avoir une intention, mais l'usage va changer mon intention. Je veux dire avec ça que je ne sais pas quelle question se posait Beethoven au moment où il écrivait sa sonate. Mais il voulait, en tout cas, il avait trouvé un moyen, lui et tant d'autres, de transférer sa pensée sonore à un code qui était par la suite décodé par quelqu'un et rendu sonore et musical. Donc je suis en train de répondre en disant que la partition, c'est pas la musique. Schaeffer disait que c'est même pas le son qui est la musique, c'est vous qui faites la musique en l'écoutant. Elle n'existe pas en tant que telle. Parce qu'on l'a fait, ça veut dire pas qu'elle est musique. C'est quand vous entendez que vous donnez du sens musical. Et l'idée de Beethoven à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'enregistrement, c'est que grâce à ça, cette œuvre pouvait être reproposée, rejouée. Et ce procédé est allé tellement loin que... quand c'est un gamin qui essaye avec un doigt de jouer la lettre Elise ou c'est un grand pianiste, vous dites c'est la lettre Elise. Et pourtant la différence elle est colossale en termes de qualité, mais pour vous, il y a quelque chose de très imprégné dans votre mémoire qui fait que vous reconnaissez la chose. Donc la musique a pris ce chemin-là, la musique instrumentale, justement par un besoin, comment on peut se reproduire avec quand même une idée de, comment dire, pas de reproductibilité, mais d'être fidèle à une certaine stratégie, à une certaine structure. Hein, parce que vous avez un autre type de musique, qui est l'improvisation, qui n'est pas fidèle. Vous n'êtes pas censé, à chaque fois que vous rejouez ou vous refaites l'improvisation, d'obtenir le même résultat. La musique écrite est rentrée dans cette tendance extrêmement intéressante d'être fidèle à un cadre de référence qu'est la partition. Mais avec une possibilité de variabilité énorme, comme j'ai dit, entre le gamin et le professionnel. Arrive ensuite l'enregistrement. L'enregistrement va avoir la caractéristique de, même pour la musique instrumentale, figer les choses. Et c'est un peu exagéré ce que j'ai dit, mais nous vivons dans une société qui s'acousmatise de plus en plus, dans le sens que la musique en tant que phénomène vivant, on ne l'entend presque jamais. On n'entend que l'enregistrement. Et on a tendance non sans plus à entendre l'enregistrement, c'est pas ça l'acousmatisation, c'est le fait d'entendre le même enregistrement. Des centaines de fois, parce qu'on a téléchargé le disque ou on l'a acheté. Donc on entend exactement la même chose. Donc la musique a développé une capacité du plaisir à travers la reproduction identique du même événement. Hein? et ce qui paraissait être la charge, au fond, de la musique acousmatique. C'est-à-dire, c'est tout le temps, à chaque fois qu'on entend, c'est la même chose, mais malheureusement, la plupart des musiques, à chaque fois qu'on les entend, c'est toujours la même chose, hein, sauf des variantes, et même au point que les gens qui sont hyper saturés d'écouter la même musique entendent une autre interprétation et disent « non, mais c'est pas bien ». Puisque ça ne correspond pas à toutes ces structures mentales que je construis dans ma mémoire. Donc, là où je veux intervenir, c'est de dire, d'une part, je ne sais pas ce que c'est la nature d'une œuvre, mais je vais laisser les portes ouvertes pour que d'autres puissent l'explorer. Je vais laisser la porte ouverte pour que n'importe qui puisse prendre telle œuvre, œuvre instrumentale, et la rejoue aujourd'hui, demain. S'ils font un dispositif technologique, comment je fais pour transmettre ça en même temps que je transmets la partition? Voilà la problématique dans laquelle nous nous trouvons. Pour les musiques acousmatiques, je suis désolé, il y a aussi un certain nombre de paramètres de variabilité qui ne sont pas des moindres. Les compositeurs ne se préoccupent pas trop de déterminer comment la musique devrait être écoutée. Si sur deux petits haut-parleurs, l'ordinateur, si sur un acousmonium, si sur deux bonnes enceintes. Mais il est clair que la réception et la perception de la musique va dépendre fortement des dispositifs utilisés. Et dans certaines situations où le jeu avec l'espace est important, ça devient encore plus crucial. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de l'interprétation, surtout dans la restitution. Effectivement, si on se pose du point de vue de la musique comme acte isolé et répétitif à partir d'enregistrements, on est en train de décréter une certaine mort de l'interprétation musicale. Mais laissez-moi avancer un petit peu encore. Donc, on a quatre approches. C'est là où je commence à devenir positif. Donc, on a fait tout le travail d'étudier les œuvres existantes de manière identifiée, définir la fonction, relation existante entre ces composants. C'est le travail qu'a fait cette personne sur une œuvre des années 70. Elle a reconstruit tout. Et maintenant, elle a figé de telle manière que, dans le futur, on pourra jouer l'œuvre. On a toutes les instructions sur les types de sons qu'il faut faire. Depuis 20 ans, on fait ça, le point 1. Le point 2, introduire des schémas et des méthodes de description pouvant être utilisées par les artistes pendant la production, pour ainsi assurer une description complète et efficace de l'œuvre de ses composantes. Parfois, il y a des assistants, si disponibles, sinon beaucoup de compositeurs se sont prêtés au jeu. Je fais mon œuvre et je réfléchis en même temps à ce qui est important de garder. Quelles sont les composantes? Il faut que je les identifie, que je trouve les points faibles de la conservation par rapport à ce que je suis en train de faire. Je cite toujours le cas de cet sculpteur qui fait, qui fait des sculptures en chocolat. Donc, à la fin de l'exposition, le public mange les sculptures. Donc, est-ce qu'on peut parler de conservation là, ou des reproductions? Donc, lui, il est pour l'éphémère et à la fin de l'exposition, l'œuvre n'existe plus. Mais il se peut que, imaginons qu'il veuille conserver ses sculptures, je suis devant un problème de conservation. Intégrer des fonctions d'autodescription au sein des logiciels, de manière à générer des informations complémentaires permettant de suivre un parcours de réalisation. Ça, on y est là, maintenant. C'est-à-dire, on commence à avoir des outils qui nous permettent de garder une mémoire structurée et un peu organisée de ce que nous faisons. Parce que... Je parle après, pardon. Et puis, développer des logiciels capables d'organiser des informations préétablies avec des méthodes structurantes. Ça, c'est le futur encore. Moi, j'aimerais bien, puisque je passe beaucoup de temps, avoir un truc qui m'organise automatiquement toutes mes informations au sein de mon ordinateur. Chaque fois que je mets un fichier, il sait où il doit aller. Il ne se trompe pas. Il identifie les personnes qui sont dans les photos, le lieu, tout ça, et le texte, le contexte, tout ça. Je ne dois pas me tuer à restructurer, réorganiser en permanence. Et
comment donner tout ce pouvoir à l'ordinateur?
C'est pas du pouvoir.
Mais
justement, c'est ça la capacité à l'outil à être efficace en termes de comprendre par rapport à ma paramétrisation de l'outil qu'il puisse répondre le mieux à mes attentes. Sinon, je ne vais pas l'utiliser. C'est très, très simple.
Mais c'est marrant parce que vous avez pensé à un truc. Je trouve que le fait de ranger en fait, et d'archiver soi-même ces documents dans un ordinateur, ça nous permet de nous en souvenir aussi nous-mêmes.
Absolument.
Si jamais ça s'archive tout seul, bah, peut-être qu'en fait, on oublierait que ça existe. Enfin, parce que le fait de les ordonner, c'est ce qui fait qu'on écrit des mémoires aussi. Enfin, du coup, pour moi, l'ordinateur, c'est un. Comme si on plaçait une partie de ce qu'on ne veut pas se garder en même temps tout le temps avec nous quelque part. Mais du coup, je me dis, qu'est-ce que ça faisait si on jamais l'ordinateur, il les avait. Enfin,
oui, attendez, ne vous accrochez pas trop à c'est un exemple de quelque chose qui pourrait exister. Après, mais cette réflexion que vous faites, il faut que vous la fassiez avec tout ce que vous changez dans votre utilisation courante. Le fait d'avoir un ordinateur, déjà, est un changement radical par rapport à quand vous étiez enfant, juste comme ça, la gestion de l'information, de la connaissance, et... je ne sais pas, j'ai environ 350 000 fichiers dans mon ordinateur. Donc il y a des choses que je vais structurer avec des grands traits. Il y a beaucoup de choses qui sont dans une sorte de limbe et que je vais trouver simplement à travers des recherches, pas à travers de la classification. Hein. C'est ce que je disais au début par rapport à la documentation. Et trouver des choses, c'est une chose. Les organiser en est une autre. Donc voilà, je ne vais pas tellement. Mais vous avez raison dans quelque chose, c'est un vieux principe, c'est-à-dire que la relecture de quelque chose redonne de la connaissance sur la chose. C'est-à-dire le fait de réaccéder le même ordinateur tout le temps et de changer des choses et de les modifier vous rappelle en permanence sa structure. C'est fondamental. C'est ce qu'on appelle la gestion de la connaissance dans le temps. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas cette possibilité qu'est-ce qui se passe dans 50 ans avec votre ordinateur? Vous me direz, il aura évolué avec moi. Ça sera votre réponse. Mais peut-être pas. Peut-être vous le laisserez de côté, vous voulez revenir. Ça, c'est des projets. Donc, là, par exemple, on travaille maintenant sur un projet... Il est fini, mais bon, ça va donner lieu à un outil qui s'appelle Gamelan. Donc, par exemple, là, il y a les trois logiciels que j'ai montrés, un séquenceur, un GM Tools, un Max. Et ça, c'est une musique, mettons, c'est un exemple factice. Et il y a des relations entre les logiciels. Un logiciel va interagir avec un son, un autre avec un autre, et le résultat va dépendre de cette interaction. Donc ça, c'est la manière dont le compositeur travaille aujourd'hui. Il gère plusieurs logiciels en même temps qui sont interconnectés et qui ont des fonctions différentes. Donc tout ça est à l'intérieur d'un système opérationnel, c'est le OS X là, ou c'est le Windows Vista, ou n'importe quoi, qui est censé gérer le fonctionnement de cet ensemble de logiciels et les relations, les flèches vertes, c'est vous pouvez essayer de voir qui est quoi est connecté avec quoi, mais c'est vous dans votre tête que vous gérez tout ça. Donc l'idée, c'est entre les deux, interposer entre le système opérationnel et le logiciel, instaurer une sorte de mémoire, qu'on appelle Gamelan, qui va garder trace de vos actions, mais pas d'une manière bête, comme le font déjà les logiciels. Vous avez dans tous les logiciels, surtout les complexes, vous avez une fonction qui vous permet de revenir en arrière, le undo. Vous pouvez faire un undo qui vous ramène jusqu'au début. Sauf qu'il y a tellement d'informations que vous êtes incapable de naviguer là-dedans. L'idée, c'est là d'avoir des moments que l'utilisateur peut déterminer avec des critères qu'il va fixer et qui va expliquer ce qui s'est passé. Par exemple, j'ai pris ces fichiers, je les ai mélangés dans ce logiciel et j'ai obtenu ce fichier-là. d'avoir une sorte d'échelle temporelle où on a identifié les actions fortes qui ont été faites par l'utilisateur. Comme ça, on peut faire différentes versions, on peut suivre une production, pas seulement musicale, mais dans n'importe quel domaine, pour avoir une sorte de génétique de la manière dont se produit de l'œuvre. Garder une trace des actions à travers le temps, organiser les actions sur une ligne temporelle, établir des préférences documentaires. À certains moments, je peux rajouter des commentaires, créer des liens fonctionnels avec certains logiciels, gestion et des annotations, et hiérarchisation des annotations. Parce que, au fond, qu'est-ce qu'on doit garder ? Il faut garder ce qui permet d'interpréter les intentions du compositeur. Les intentions du compositeur, je ne peux les décoder qu'à travers ce qu'il a laissé. Parfois, les compositeurs vont très loin et écrivent beaucoup sur leur musique. S'associer à cette démarche, c'est de savoir où et qui est en charge de cette sauvegarde, au-delà de l'efficace modèle traditionnel que j'ai montré des luthiers et des bibliothécaires. L'interprétation n'est pas une science exacte, donc il restera toujours des zones d'ombre, des zones où il faudra inventer des intentions. Le compositeur n'a pas non plus une vérité toute puissante. Toute création est un essai d'externalisation des idées, sentiments et vécus plus ou moins réussis, quoi que disent les compositeurs. Les compositeurs, je ne dis pas qu'ils se trompent, mais parfois les choses sont mal faites. Il y a des compositeurs qui ont mal écrit quelque chose. Est-ce que je dois corriger ou pas ? C'est une question qu'on s'est toujours posée, surtout les interprètes. On ne s'autorise pas. Non, je ne dis pas qu'il faut s'autoriser. Mais il faut prendre les choses avec prudence. C'est tout ce que j'ai dit. C'est l'exemple de Stockhausen avec son étude de 1953 pour électronique. Donc l'intention de Stockhausen était d'écrire la partition qui décrit les actions et de montrer ce que ça doit donner, avec l'idée que d'autres allaient le reconstruire. Mais tout d'un coup, on donne à cette version une valeur, une sorte de valeur universelle. C'est comme ça qu'il a voulu, même si c'est plein de souffle, s'il y a des craquements, des clics, etc. Donc je vais dire que la vérité du compositeur n'est pas unique. Je ne dis pas qu'il faut la changer, je dis qu'elle se prête à interprétation. Après, on peut discuter, et les différentes époques ont montré les limites ou les déformations de l'interprétation. Chopin, pour le revenir à lui, il y a 50 ans, c'était le n'importe quoi au niveau du tempo. Aujourd'hui, c'est des interprétations beaucoup plus rigoureuses. On est revenu à une mode où on essaie d'être beaucoup plus fidèle à ce qu'il y a écrit sur la partition et pas prendre de liberté. Et puis, il y a aussi beaucoup de situations où le compositeur volontairement a laissé des degrés de liberté assez grands. Il y a beaucoup d'œuvres qui mélangent pas mal d'improvisation ou de possibilités pour l'interprète de choisir, par exemple, entre différents éléments. Mais on a tendance à tout de suite figer ça, à dire il l'a enregistré comme ça, ça doit être comme ça. Ce type de vérité, il faut les prendre avec précaution. Alors, dans les musiques acousmatiques, l'interprète n'a plus de raison d'être. Il y a bien sûr l'interprétation en concert ou une paire de variations induites. Le compositeur réduit au minimum le champ d'interprétation. L'interprète traditionnel donne du sens à une œuvre codifiée avec différents niveaux de précision par le compositeur. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'interprétation dans les musiques acousmatiques. Déplaçons le problème du côté de l'auditeur. C'est pour ça que je dis que c'est l'auditeur qui donne du sens à ce qu'il entend. Pourquoi il donne du sens ? Parce que vous avez dans votre domaine un problème similaire. Pourquoi je peux regarder avec intérêt, passion, émotion, le même tableau ? Aujourd'hui, demain, dans 10 jours, dans 1 an, dans 10 ans, ou la même œuvre. Parce qu'il y a quelque chose qui change entre-temps. C'est moi. Ce n'est pas l'œuvre. Donc, il y a un domaine dans lequel nous sommes devant la variation permanente de l'œuvre, c'est tout ce qui est les arts de la scène, musique, danse, théâtre, et il y a un autre domaine qui est le domaine des arts fixés, cinéma, musique acousmatique, tableau, etc. Et dans lequel l'œuvre se présente de manière toujours identique. Et on est capable d'être intéressé ou désintéressé dans ce renouvellement. C'est-à-dire que l'auditeur donne du sens en permanence et ce sens change à cause des changements de l'auditeur. Voilà. Je vais m'arrêter là. Peut-être il y a quelques questions. J'ai fait quelques expériences. Certaines, j'en parlerai demain. Je ne vais pas parler demain, mais je vais raconter quelque chose. Une fois, j'ai fait un stage pour des étudiants de composition électroacoustique. Et un peu intrigué par ces questions de la documentation, je leur ai proposé l'expérience de composer et documenter en même temps. C'est-à-dire, en ayant au préalable précisé une méthode, donc vous allez commencer par enregistrer un son. Donc l'enregistrement de son, vous faites l'enregistrement et vous expliquez ce que vous avez enregistré, à quel niveau étaient les potentiomètres, à quelle distance était l'objet, et ainsi de suite. Hein ? Laissez-moi parler. Et ensuite, quand vous avez enregistré vos sons, vous les écoutez et vous notez vos impressions sur les sons. Vous les décrivez aussi. Donc, vous avez liberté totale d'écrire ce que vous voulez. Donc, écrivez. Oui, dans cette séquence avec le gobelet, j'ai pris entre la seconde 30 et 40. Parce qu'il y a un mouvement qui me plaît beaucoup et que je pense je peux faire beaucoup de traitements derrière. Donc, il prend ses 10 secondes, il met un logiciel, il fait du traitement, il en fait plusieurs, et puis il choisit, il décrit à chaque fois, et même s'il peut prendre une image de l'écran, il le fait. Alors, premier jour était parfait, magnifique, tout le monde était heureux, tout le monde s'est prêté au jeu. Ah, mais c'est extraordinaire, oui, c'est vrai, parce que je dis, on ne va pas trop se préoccuper du résultat. Je veux que vous documentiez le processus et que vous me décriviez tout ce que vous faites. Deuxième jour, un peu de résistance. Mais pas de résistance à ce qu'ils avaient à faire. Troisième jour, fronde. Tout le monde voulait arrêter. Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a plus de moment présent, il n'y a plus d'improvisation, il n'y a plus de choses. C'est trop subjectif, en plus, ça peut être
un peu plus arrière. On ne demandait pas à être objectif, simplement de décrire. Non, c'était même pas l'intention de pouvoir le refaire. Simplement de décrire toutes les étapes et toutes les émotions et tout ça. C'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que la boucle créative est tellement rapide que si on s'arrête, l'élan s'arrête et on perd le fil. C'est ça le problème qu'ils affrontaient. Et donc, au début, quand on est dans la phase d'exploration, ça va. Parce qu'on a besoin de temps. On a besoin d'écouter, on a besoin de prendre des notes. Mais plus on avançait, plus on dit, je prends un son, je le mets ici, je le coupe, je l'ajuste, tout ça. Le fait de décrire faisait tout tomber. Alors finalement, les deux derniers jours, on a pris une autre option, très coûteuse, et qui est quand même l'option traditionnelle, c'est d'avoir un compositeur et un décriveur. Donc, l'un suivait, comme il connaissait la technique, il savait ce qu'il faisait, il décrivait, de temps en temps, excuse-moi de te déranger un instant, est-ce que l'un... Oui, ok, donc il continue à prendre des notes. Et là, on a pu arriver à une sorte de boucle assez intéressante, sauf qu'on revient à la méthode hyper coûteuse de devoir mettre quelqu'un à documenter le travail de celui qui produit. Alors là, nous sommes vraiment dans un domaine spéculatif. On s'interroge comment on peut faire évoluer la technologie pour nous aider dans cette phase qui nous permet de garder autant d'informations que possible sur une création, de manière à pouvoir la recréer. Mais en tout cas, jusqu'à présent, tout passe par une inversion temporelle extrêmement coûteuse pour tout le monde. Et ne parlons pas de domaines comme le théâtre ou la danse, qui de plus en plus travaille l'hybridation entre musique, images, interactivité luminique et des choses comme ça. Là, ça pose des vrais problèmes de préservation.
Sur les arts plastiques aussi.
Sur les arts plastiques, sur tout ce qui est installation, performance. Mais ça dépend aussi de la logique de l'auteur, hein, de ce qu'il veut faire avec, pourquoi il le fait, avec quelle intention par rapport au temps. Est-ce que les gens se posent la question du temps ou pas? Est-ce qu'on se met dans une dimension temporelle, on se dit je fais aujourd'hui. Je dois dire personnellement que je m'en foutais totalement de ça il y a 30 ans. Je ne pensais pas qu'il y avait des problèmes. C'est en rencontrant des problèmes que je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes. Et que des œuvres que j'ai fait il y a 30 ans, j'avais des problèmes à les faire aujourd'hui.
Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de responsabilité du compositeur à s'assurer qu'il y a une possibilité de pouvoir, à un moment donné, si on a l'opportunité qu'on choisit, de pouvoir rejouer l'œuvre?
Le problème, c'est que on ne connaît pas la vie des œuvres à l'avance. Et c'est vrai, comme j'ai dit, il y a beaucoup de compositeurs qui prennent ça en charge, qui vont passer beaucoup de leur temps à documenter, de manière à pouvoir expliquer le mieux possible comment c'était fait et permettre à quelqu'un de rejouer l'œuvre dans le futur. Mais c'est très cher en temps, ce temps-là. C'est pour ça qu'on a l'idée un peu d'essayer de voir jusqu'où on peut simplifier un certain nombre d'actions, de manière qu'après on ait rajouté quelques phrases ici et là pour permettre de reconstruire le sens ou l'intention telle qu'on la conçoit.
J'ai l'impression que l'expérience que vous avez faite avec le décriveur, c'était plus tout un processus, c'est plus que le compositeur. Je ne sais pas, mais je n'aurais pas l'idée de mettre un regardeur à côté du peintre pour nous qui pense.
Bien sûr, mais c'est insupportable.
Savoir qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et là, c'est peut-être au compositeur, effectivement, de le savoir.
Oui, mais c'est ça le cas où j'ai décrit des gens conscients. Mais le cas habituel de l'archivage, c'est pas en télévision, en cinéma, je vais vous raconter un autre exemple, c'est que on fait la production. Quand la production est finie, on prend tout ça et on vous le file. Il nous dit, gardez-moi ça. Bien sûr, tout dépend de quel usage on va faire de cette conservation. Mais si l'usage est dans la réutilisation, on est devant un vrai problème. Un exemple réel et presque stupide. Vous rappelez, et surtout maintenant elle est revenue, la série Dallas. La série Dallas, c'était une série de télévision. Mais pour des raisons d'époque, quand c'était tourné années 70, c'était tourné en 35 mm et puis transféré à la vidéo et puis on faisait le montage. Donc 30 ans après, ils se sont dit maintenant avec la HD, on n'a qu'à ressortir nos vieux films, 35, et faire une version Dallas HD, les mêmes épisodes mais en HD. Grosse surprise, tout était là, sauf que le montage avait été fait en vidéo. Et le script de montage, qui était sur du papier, avait disparu depuis belle lurette. Donc on avait l'œuvre finie, on avait les rushs, mais on ne savait pas quelle séquence avait été prise dans telle et telle, dans telle séquence tournée. Donc, refaire ça était aussi, encore une fois, un travail de description colossal. Aller chercher combien de secondes, combien de tout ça. Si on avait eu les instructions de montage, ça, c'était quelques jours de travail pour reconstruire le montage dans un autre contexte. Ça, c'est un exemple habituel d'information cruciale qui n'est pas considérée comme étant importante et qui disparaît à un moment. Le script, c'est un des cas les plus forts en cinéma. Maintenant, les gens font un peu plus attention. Et puis, on a des outils numériques qui permettent de gérer ça. Mais voilà un autre exemple comme ça de je sais pas si c'est une perte irréparable, mais d'intention frustrée parce qu'on n'avait pas gardé les bons éléments. Donc, je ne dis pas qu'on doit non plus vivre obsédé par ça. Hein. Mais moi, je commence à faire de plus en plus attention à la manière dont je conserve des choses, surtout mes œuvres instrumentales. Et par exemple, laisser pour chaque œuvre instrumentale un enregistrement que je pourrais appeler de référence. C'est comme ça que je pense que ça doit être joué. Mais sans que... sans que ça soit non plus une sorte d'obligation morale de jouer tel que l'enregistrement le fait, au même tempo, avec les mêmes inflexions, tout ça. Je considère que c'est le degré de liberté qu'a l'interprétation musicale, qu'après c'est l'interprète de décider comment il va le faire, comment il va enchaîner, et comment il va réussir à reconstruire ce sens qu'il est censé transmettre à celui qui entend.
Je pose des questions sur la conservation de ce qui est écrit, entre autres, représentation écrite et graphique. Ça pose pas trop de problèmes de transmission de la mémoire. Et puis le travail lent qu'il faut faire, c'est qu'on s'y prête.
Ouais. Explique ton mot analyse qui est à...
Quand je dis l'analyse, c'est les résultats. Le projet également permet de décrire finalement les étapes successives.
Ouais.
Et en tout cas, me permettre.
Comment ça se présente ?
Oui, et le résultat final, il est sur écrite aussi.
Écrite et graphique, il y a les deux. Mais non.
C'était le sens de ma question.
Oui, d'accord. Non, c'est graphique. C'est un diagramme qui se part. Oui. Non, mais j'étais beaucoup mieux loti à l'époque où j'avais pas d'ordinateur. J'ai travaillé sur des bandes multipistes et j'avais un diagramme très précis, mais où je savais à tel moment il y avait tel son et l'action que j'avais fait, parce que j'ai passé beaucoup de temps à décrire. Parfois, la labeur génère de la description par elle-même, parce que sinon on est perdu. Mais avec des séquenceurs actuels où on va très vite, au fond, et on peut changer des choses très rapidement, on est dans le cas de l'autodescription, on n'arrive pas à suivre, et donc on va au résultat final et on ne s'occupe pas des parties intermédiaires.
Considérer qu'il y a des œuvres qui sont amenées à mourir ?
Absolument. Et grâce au ciel.
Est-ce qu'il y a des... notamment tout ce qui est archives, etc. Est-ce qu'il y a aussi, une distinction, en fait, des contenus dès que tout est décrit, mais plus tard pour la recherche, est-ce qu'il y a aussi une hiérarchisation et dire qu'il y a certaines choses qui seront amenées à...
Il y a plusieurs concepts autour de ça. Un concept assez intéressant, on appelle ça le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli. C'est-à-dire le concept que n'importe quel individu a le droit à que ce qu'il a fait ne soit plus conservé. On discute beaucoup autour de Facebook et tous les réseaux, parce que justement, ils posent des questions de permanence d'une information qui n'a pas vocation à être permanente. Mais ce problème était résolu et géré plutôt par la thématisation des collections. C'est-à-dire, vous êtes une archive de quoi ? Donc, si vous êtes des archives nationales, il y a une loi qui va déterminer tout ce qui va aux archives nationales. C'est-à-dire, tout ce qui est produit par l'administration doit aller aux archives nationales. Donc là, vous vous trouvez devant des archives monstrueuses. Parce que la lettre qui va, etc. Il y a, en général, après, il y a des archives qui essayent d'écumer. J'utilise le mot archive dans un sens beaucoup plus large, d'écumer de la valeur. Les archives du cinéma, c'est clair, on va à un endroit très précis. Les archives, je ne me rappelle plus le nom du centre, le truc de Caen.
L'IMEC.
L'IMEC est un institut qui collectionne les archives des intellectuels, disons. Donc il y a tel philosophe qui meurt, et la famille décide d'envoyer tout, même les pantoufles. Hein. Eux, ils reçoivent tout. Après, parce qu'ils considèrent... Ça, c'est la logique de l'archive. L'archive... excusez-moi, je fais une digression là. Vous avez plusieurs modèles de conservation. Il y a la bibliothèque, il y a le musée, il y a l'archive. C'est les trois grands modèles. Donc, bibliothèque, vous savez ce que c'est une bibliothèque, on met les livres. Le problème de la bibliothèque, c'est de savoir où sont les livres. C'est tout. Donc, pour ça, ils font des fiches où il y a le nom, l'auteur, et surtout sur quelle étagère, dans quelle pièce. C'est ça le problème de la bibliothèque. La bibliothèque numérique, c'est autre chose. C'est le même problème de l'INA, historiquement. On avait des boîtes avec des programmes, et il fallait savoir quel était le nombre de programmes, le numéro de la boîte, et où elle s'est trouvée. Ça, c'est la bibliothèque. Le musée effectue, en principe, parce qu'il y a des musées de différents types, mais en principe, sélection des objets qui ont de la valeur patrimoniale, artistique ou autre. Et le musée, par exemple, est beaucoup plus sensible au problème de conservation. Mais il est beaucoup plus sensible au problème de description de l'objet. Telle statuette, elle a 20 cm, elle est faite en ivoire, tout ça, telle époque, tout ça. Parce que c'est la description de l'objet qui va être au centre de son activité. L'archive est un endroit où on conserve des ensembles d'informations. Dans l'archive, il n'y a pas d'objet, il y a des collections. Il y a l'archive, pas d'exemple, Albert Camus. Dans l'archive Albert Camus, par exemple, si l'archive est à l'IMEC ou ailleurs, on a mis tout ce qu'on avait sur Camus et on a décrit l'ensemble et ses éléments composants. Donc, vous ne pouvez pas extraire un élément d'une archive. Tout vient ensemble. Donc, bibliothèque-musée, c'est plutôt en termes d'objets que c'est pensé. Archive, c'est en termes de collection. Et là, l'IMEC essaye de faire justement une archive un peu plus élevée des éléments qui vont expliquer le caractère d'un artiste, d'un penseur ou d'autres choses. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à écumer en définissant l'objet à garder plus qu'en faisant une vraie sélection. Alors, dans notre cas, INA, on a eu par le passé des décisions dures à faire. Mais vous allez comprendre tout de suite les mots et les lettres, les jeux comme ça. Est-ce qu'il faut que je garde tous les mots et les lettres ? Ou est-ce que... Donc,
les chiffres
et les lettres, voilà. Les chiffres et les lettres. Et...
La météo.
Ou la météo. Donc là, on, par exemple, pour les chiffres et les lettres, on a depuis très longtemps une logique d'échantillonnage. On va garder un chiffre et lettres par mois ou par quinzaine pour avoir s'il y a une évolution, pour qu'on puisse suivre l'évolution. La météo, comme c'est généralement incluse dans le JT, on va la garder avec le JT et tant pis, parce que c'est des informations inutiles, mais on va la garder. On se pose des quantités de problèmes ou le problème inverse, il y a 8 ans, on a demandé beaucoup d'argent à l'État pour numériser nos collections. On a 1,5 million d'heures, donc on avait commencé, on veut continuer, il nous faut de l'argent. Et l'État nous pose la question suivante. Mais quelle est la valeur de ce que vous conservez? Où, comment on le mesure et qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Donc on a, comme on est une institution publique, on est bête et discipliné, et on a commencé à faire une analyse, on a dit, bon, on va identifier les chefs-d'œuvre de notre collection. Donc, on a les images de De Gaulle au Québec, Vive le Québec libre, tout ça. Ça a une énorme valeur historique, tout ça. Donc, tout de suite, on est arrivé à quelques milliers, sur 11 millions, quelques milliers, mais plutôt 3-4 de programmes comme ça qui ont une valeur historique. Bien que il n'y a que l'histoire qui peut donner la valeur historique, mais pour ce qui était de l'ancien. Et puis, on a rajouté un autre critère de valeur qui est de dire, ah mais attention, nous avons la collection complète de Casimir. Nous avons la collection complète de, etc., etc. Donc on est rentré dans une autre dimension qualitative qui est celle de la collection. Et tout ça a provoqué un changement de perception de ce que nous avions, et un changement de travail aussi, qui consiste à dire, ok, on a 11 millions de programmes. Oh, fabuleux. Mais bon, ça ne va pas très loin. Donc, à partir de là, on a commencé à voir comment on pouvait structurer ce million d'heures. Casimir est une collection. Mais on a commencé à créer des sous-ensembles à l'intérieur de ces grands ensembles. Et à chaque fois qu'on crée de sous-ensembles, on génère de la valeur. Je veux mettre ensemble tous les éléments qui concernent De Gaulle. Donc il y a 7000 documents sur De Gaulle. Mais je les ai identifiés. Vous voulez voir De Gaulle, vous appuyez sur un bouton et vous avez même dans De Gaulle des hiérarchies. Président, résistant, etc., la mort, tout ça. C'est-à-dire que une chose est gardée avec la méthodologie Archives nationales, et puis à un certain moment, si on veut que cela soit utile, pour ainsi dire, il faut lui donner de la valeur. Et donner de la valeur, c'est faire tout un travail de structuration qui n'est pas très complexe, mais qui prend du temps. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Donc soit vous mettez la barre très haut, le musée Picasso ne va avoir que du Picasso, et ils vont essayer, mais il sait que c'est un ensemble limité, en principe, qu'il y a tant d'œuvres et que, où sont ils ont un fonds et puis ils veulent l'enrichir. Soit vous faites un truc très générique, soit vous trouvez entre les deux, c'est un peu notre situation, on a beaucoup de choses et on essaye de mettre en valeur certaines. Sur les 11 millions de documents, il y a environ 35 000 ou 40 qui ont été utilisés jusqu'à présent. Pour vous donner une idée de la petitesse. Mais j'avais quelque chose à vous raconter aussi, mais j'ai oublié, donc je me tais.
Du coup, on n'a pas l'histoire du disque au début.
Ah. Vous avez raison. L'histoire du disque au début. donc là, je vais dans mon ordre personnel, et qui vient déjà qu'il y a plusieurs niveaux déjà. Je suis au dernier, le. Alors, regardez celui-là, le PowerPoint important. Voilà. C'est bien ça. Voilà. C'est en anglais, mais vous saurez. Donc, nous avons une collection de 276 000 disques, dits disques souples. Le disque souple était un disque en aluminium avec une couche de cire. Et c'était des disques à gravure directe. On enregistrait sur les disques. Donc, on a 276 000 de ceux-là. Donc, l'objectif était... Bon, ces disques souffrent une déformation très forte à travers le temps parce que la cire sèche, se contracte, se craquelle, se décolle, part en morceaux. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un système qui pouvait lire les disques sans les toucher, sans casser le disque, sans le détruire plus qu'il ne l'était, réduire le craquement des disques, donc, mais avec très peu de nettoyage, hein, parce qu'on peut laver les disques avant de les utiliser, et qu'ils soient robustes aux rayures et aux craquelures. Donc ça, c'est le principe du disque. Donc ça, c'est les sillons, et ça, c'est la pointe. Vous voyez, c'est... Je ne sais pas combien de milliers de fois. Et donc, le son, c'est ça. C'est ces ondulations. Ces variations à grande vitesse d'une vibration de la pointe génèrent le disque. Et alors, je me rappelle encore le jour où un chercheur, que nous on appelle le chercheur fou, est venu dans mon bureau avec un disque, une lampe de poche, c'est tout ce qu'il avait. Il m'a dit, regarde. Donc, il a envoyé une lumière, comme ça, en diagonale sur le disque. Et le disque brillait de couleurs différentes. Et donc, il a dit, la couleur dépend de l'angle d'incidence du rayon et de réflexion. Ouais. Donc, on a mis une application en principe où on envoie un rayon lumineux et on a, en fonction de l'angle, il va renvoyer des couleurs différentes. Et on a ici un capteur qui est toute cette hémisphère qui va envoyer une information en fonction de la couleur reçue et de l'intensité de cette couleur. Donc, à partir de là, on fait... ça, c'est la vision, disons, de fragments. Alors, on avait aussi ce programme de... Ça, c'est le disque craquelé, celui-là. Là, vous avez un bel exemple. Ça, c'est illisible aujourd'hui. Hein. Donc, c'est des disques qui sont laissés de côté. Donc, il faut d'une part... décoder l'information et ensuite reconstruire, c'est-à-dire joindre les bouts, savoir que ça, ça va coller avec ça, ça, ça va coller avec ça, ça, ça va coller avec ça. Donc on est rentré dans des questions mathématiques assez complexes. Ça paraît très simple. Vous n'avez qu'à recoller tout ensemble, mais bon, il faut identifier. Le problème, c'est que tout ça soit automatique et pas d'intervention humaine pour cela. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Avec cette machine qui a deux décodeurs pour la stéréo et ou un seul pour la mono. Donc on prend des photos successives avec le déplacement de la tête, et on fait une espèce d'énorme ligne comme ça. Et puis, avec les variations de couleurs, on fait un transcodage audio qui marche très, très bien. Et surtout, on a pu acheter des disques de test vierges, jamais lus, pour calibrer le rapport signal-bruit. C'est un disque qui propose soit des tons contenus, soit de ce qu'on appelle un sweep, qui va de la fréquence la plus grave à la fréquence plus aiguë. Et donc on a une courbe, et quand on décode, il faut que la courbe corresponde le mieux possible à la courbe théorique qui est développée par le lecteur. Donc voilà le type de choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a d'autre là. Ça, c'est un exemple d'échec. Non, de succès, qui est un lecteur de bandes magnétiques presque sans contact, mais qui permet de lire à plusieurs fois la vitesse de la bande, d'une part, et ensuite de corriger automatiquement ce qui s'appelle l'azimut. L'azimut, c'est-à-dire, y a la bande, il y a la tête d'enregistrement. Donc, et là, un petit angle, soit, s'il est bien réglé, il n'y a pas de problème, mais généralement, elles ne sont pas très bien réglées. Donc, s'il est un peu tordu comme ça, il faut que quand on lit, la tête de lecture ait le même angle. Sinon, on n'a pas la bonne information. Donc, ça, c'est calculé automatiquement. Ça, c'était une des meilleures choses. Voilà. Ça, c'était un exemple. Et puis, ça corrigeait des trous. S'il manquait de l'information, c'était capable de reconstruire ce qui manquait. Donc, on a fait un prototype qui marchait très bien. Mais on s'est rendu compte après qu'il n'y avait pas vraiment de marché pour des magnétophones. Il y en avait trop encore qui tournaient. Je ne sais pas, une maison comme la RAI en Italie a 600 studer. L'INA doit avoir 200 ou 250. Donc, faire une machine dont les perspectives de vente n'étaient pas dans les milliers n'avait pas trop de sens. Ça, c'est des choses. Et sinon, tous les autres travaux, c'est de l'extraction de automatique d'informations, c'est identification d'images, identification de personnes. En plus, parce que tous les problèmes que nous avons sont multipliés non seulement par le volume, sinon par le fait que nous gardons beaucoup d'échantillons de différentes époques. Par exemple, il y a aujourd'hui des logiciels dans le marché très efficaces pour faire ce qu'on appelle le speech to text, passer du texte à l'écrit, mais ça marche sur un locuteur contemporain. Quand vous mettez une émission des années 60, ça merde d'une manière inimaginable. Donc, comment on va adapter les modèles de ces logiciels pour reconnaître et pouvoir interpréter l'intonation des années 60 ou le mode de parler particulier, sans parler du vocabulaire? Parce qu'il y a des noms propres de noms de personnes qui vont être interprétés n'importe comment parce qu'ils ne sont pas référencés dans la base de référence. Donc, on a ce type de problème. Et. Parce que je voulais dire. Oui. Et une idée sur laquelle on travaille maintenant, c'est faire un. On travaille sur un dictionnaire des voix. Avoir, par exemple, prendre milliers de personnalités, et puisqu'on a les archives, essayer d'enregistrer Chirac en 60, 70, 80, 90, 2000, pour extraire une sorte de signature sonore de Chirac, pour qu'à n'importe quel moment, on puisse l'identifier. On a un problème majeur, c'est le retour dans le temps. On prend Sarkozy, donc il est très connu, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'on a un Sarkozy d'il y a 30 ans. Et on l'a trouvé. On a trouvé un Sarkozy quand il était à Sciences Po. Il est interviewé par... Mais à l'époque, il était documenté comme étudiant à Sciences Po. On n'a pas mis le nom, puisqu'il n'était pas connu. Donc comment on arrive à retrouver quelqu'un préalablement? Si on a une empreinte de la voix, on peut essayer de faire des recherches à travers ça. Voilà les types de problèmes amusants sur lesquels on travaille. Bon. Yes. Oui, monsieur.
Une question que j'aurais envie de poser, peut-être pour qu'elle soit disons comment on doit rêver. Je reviens donc aux questions sur le plan de l'archivage et le travail qu'on fait à postériori avec des critères que vous avez déterminés. Est-ce qu'on peut rêver un jour à ce que ce soit au moment où on fait le AFA, que ce travail soit fait automatiquement?
C'est ça l'objectif. Ça va, ça l'objectif. Alors, tout ça va fonctionner si on sait exactement ce qu'on doit conserver comme information. Dans le cas de l'INA, en tant qu'archive de télévision, tout ça est très bien établi déjà. Les documentalistes savent exactement quelle information doit piocher. Et on pourrait imaginer qu'il y aurait...
On est loin de cette possibilité-là.
Automatique ?
Oui, que ce soit fait par le même logiciel, au fond, qui quelque
chose comme ça. Oui, on est loin. Mais c'est là où, quand on parle de description, on rentre dans un problème, c'est qu'il n'y a pas de description par elle-même. La description correspond toujours à un usage. C'est-à-dire, ça dépend de ce que je veux faire avec la description. Et un exemple est le suivant. Les archives de radio-télévision sont les plus évoluées en termes de documentation et les mieux documentées. Pourquoi ? Parce que la radio-télé, dès très tôt dans son histoire, a réutilisé des programmes, a utilisé la production passée pour faire du présent. Soit la production à base d'archives, soit quand quelqu'un meurt, avoir les images, tout ça. Donc, il fallait trouver les images très vite. Et donc, bonne documentation. Et la documentation de l'INA, elle va te dire qui est sur l'image et qui sont les ayants droit. Et grosso modo, de quoi ça parle. C'est tout. Et alors, la situation ou le paradigme que nous aimons expliquer, c'est que peut-être demain, tu viens à l'INA et tu dis « Bonjour, je voudrais avoir une image de coucher de soleil. » La réponse va être « Je suis désolé, nous ne l'avons pas. » Ce n'est pas la réponse. La réponse, c'est « Je ne sais pas si j'en ai. » Parce que je n'ai jamais documenté le fond dans cette perspective de trouver des couchers de soleil. Donc, mon problème, recherche, c'est de dire « Comment je peux faire pour peigner le fond INA ou une partie ?» à la recherche de couchers de soleil. Il faut que je définisse ce que c'est un coucher de soleil du point de vue de l'image. C'est-à-dire que j'ai les algorithmes pour aller chercher, mais comment je définis ce que l'algorithme doit aller chercher? Donc je modélise le coucher de soleil, avec tous les problèmes que ça a, parce que ça, un soleil au milieu d'une image avec une ligne horizontale, bon, ça peut être aussi un visage qui ressemble beaucoup à ça, etc. Donc, c'est le type de questions qu'on se pose. Et donc, quand on revient à la musique, je peux documenter beaucoup, mais très mal. Je peux m'amuser à prendre les mesures de l'Atari en question, il mesurait 30, etc., 220, la prise était comme ça, de prendre des quantités d'informations inutiles par rapport à l'œuvre, utiles par rapport à l'objet. Donc la difficulté, c'est de cerner ce qu'on veut garder comme information. Et à partir de là, on peut commencer à imaginer un dispositif qui permette justement d'obtenir cette information. C'est-à-dire que ce travail est surtout important pour nous au point de vue de la méthodologie de ce qu'on doit mettre en œuvre. Et comment on s'y prend. Parce que demain, quelqu'un veut jouer telle œuvre de tel compositeur, on va dire « Je suis désolé, on a les éléments, mais on ne sait pas du tout comment jouer l'œuvre ». C'est ça la situation paradoxale.
Oui. Il y a quand même deux choses différentes, c'est l'archivage.
Oh, ça, je dis dès le départ.
La conservation pour réinterprétation.
Absolument.
C'est deux choses différentes.
Absolument. C'est deux choses différentes. Ce que vous appelez l'archivage, j'appelle ça le témoignage d'une œuvre. Voilà, je garde un témoin de la création et qui n'a pas valeur d'original, il a valeur de témoin. Mais après, j'ai tout le problème de conserver l'œuvre. Et de ce point de vue, on est différent à l'INA. Parce que l'INA conserve le témoignage qui est en lui-même un nouvel original puisqu'il a valeur de témoin et de produit aussi. Mais moi, j'ai l'œuvre qui a beaucoup de composantes et puis j'ai le témoignage. Si, avec le témoignage, je les utilise, je fais des disques, je peux mettre des choses sur Internet, je peux montrer un certain nombre de choses. Et pour garder l'œuvre et la rejouer, il faut que je fasse un effort particulier. Et c'est sur la nature de cet effort qu'on a à peu près bien modélisé la chose, parce qu'on l'a éprouvé en même temps. On a pris des œuvres, on les a rejouées avec des technologies différentes. C'est ça l'idée. C'est pas... Alors, pour revenir à votre question, c'est bon. Y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Et je ne sais pas s'il faut le regretter. Je pense que. De toute manière, on ne sait pas. Vous avez raison. Vous avez raison.
C'est comme quand parfois on cherche des trucs passés qui sont éphémères, et puis parfois on arrive à les retrouver parce qu'il y a des gens qui en parlent, des textes sur le
dessus. Là, mais la parole, on ne pourra pas y échapper. La parole sera toujours présente. Du coup, on ne peut pas échapper au fait que la première dissolution proposée dans le premier schéma, la transmission par la parole,
orale.
Toujours orale.
Oui, sauf que maintenant, aujourd'hui, on a des méthodes pour la figer. C'est-à-dire que je vais prendre le technicien qui a fait l'œuvre, je vais l'enregistrer. Et il va me donner toute quantité d'informations. Peut-être pas toutes celles dont j'ai besoin, mais il va déjà m'aider dans la réinterprétation de l'œuvre. Donc c'est ça la... Mais par contre, vous avez tout à fait raison... que même dans la production la plus contemporaine, l'oral a une force extrêmement... C'est-à-dire, l'oral, le non consigné, qui est dans la tête des gens, et dont l'oralité peut le transmettre éventuellement, à condition qu'on leur pose la question. Parce que après, les gens disparaissent, on ne veut plus parler, ou ne se souviennent pas, ou se désintéressent. Mais il y a beaucoup de gens qui ont contribué à... justement à reconstruire des œuvres par leur témoignage, parce qu'ils ont... Alors, il faut dire aussi que beaucoup de choses dont on parle viennent d'une époque qui n'est pas l'époque actuelle, où le compositeur n'était pas un bon technicien en termes d'utilisation des machines. Aujourd'hui, tous les compositeurs se débrouillent sur les machines. Donc le paradigme est un peu différent. L'œuvre dont je parlais, dont le type a passé 8 mois à la reconstruire, le compositeur n'avait aucun, zéro souvenir sur la technologie. Si, il a un souvenir sur la musique, sur la partition, mais pas sur la technologie. Ce n'était pas son problème. D'ailleurs, on peut s'interroger sur est-ce que ça vaut la peine, parce que probablement à l'époque, je ne peux pas dire ça ouvertement, il y a un type qui est venu, il a dit, écoute, ce son, ça te plaît, pipipip. Ah oui, c'est très bien, prends-le celui-là. Et celui-là, non, pas celui-là. Il n'y avait pas de vrai critère de choix. On lui proposait deux, trois choses, il a dit je prends ça. Et à partir de ça, il a écrit sa partition, ou il avait déjà écrit, et on a mis ces sons-là sur la partition. Mais je ne peux pas l'accuser de légèreté, je n'ai pas d'éléments, sauf mon intuition. Mais je m'arrête là, hein. Je ne lui dirai pas et je ne dirai à personne que je pense ça, si je le pense. Hein? Non, mais je n'ai pas donné de nom ni d'œuvre, donc je suis libre de ma divagation. Oui. Vous parlez de l'INA ou du GRM?
Les deux. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre.
Alors, l'INA, il y a un site public, ina.fr, où il y a, comme j'ai dit, plein de documents que vous pouvez regarder, que vous pouvez télécharger en payant. Un petit peu, et télécharger, c'est-à-dire vous pouvez garder une copie chez vous. Vous ne pouvez pas l'utiliser, par contre. Ça mérite une autre... Là, il faut une négociation de droit, comme toute œuvre.
Utiliser, tu veux dire, diffuser publiquement?
Non.
C'est pas un objet de recherche.
C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, c'est la copie privée. Vous avez le droit de copier des choses pour un usage privé. Non, bien sûr. Et ça pose un problème pour la recréation, parce que la création, c'est pas de la... Mais par contre, vous pouvez travailler avec, faire la recréation, et puis négocier les droits. Ça dépend de quelle œuvre, de quelle époque, etc.
Oui, parce que les droits ne sont pas forcément
liés,
en fait, c'est ça.
Le problème, c'est qu'il y a différents droits. Je reviens. Nous, on a fait une initiative il y a quelques années, mais on l'a refait de temps en temps, et ça s'appelle Remix. Remix Paris, Remix Berlin, où on met un certain nombre d'images en ligne avec le téléchargement gratuit, et les gens qui téléchargent peuvent faire de nouvelles œuvres. Et puis on fait une sorte de concours ou quelque chose comme ça, et on met les œuvres en ligne, on donne un prix. Ça, c'est une chose qu'on a fait deux, trois fois déjà, ce type de choses. Après, si c'est un usage plus avec une vocation plus artistique, là, il faut négocier. Alors, pour revenir au droit. Non, ça dépend. J'arrive. La situation légale s'est complexifiée et continue à se complexifier jour après jour. Parce qu'il y a, quand vous regardez une œuvre, par exemple, de cinéma ou de télévision, en principe, le critère aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui ont contribué au succès de l'œuvre ont droit à des droits. Donc à l'époque, c'était limité, c'est en train de s'élargir, c'est élargi d'une manière colossale, jusqu'au point que, est-ce que les journalistes ont des droits sur le journal qu'ils présentent? Parce qu'ils contribuent au succès du JT. C'est pas la même chose pour Vaudarvor qu'un inconnu qui arrive sur notre chaîne. Donc on met en avant ce type de critères. Donc, les œuvres audiovisuelles, particulièrement, sont hyper complexes. Donc, il y a déjà les gens qu'on appelle les auteurs. C'est les droits les plus chiants. C'est-à-dire parce que c'est 70 ans après la mort de l'auteur que les droits sont libérés. Il y a les droits de production. Les droits de production sont à 50 ans, peut-être ça va changer pour plus long, mais 50 ans à partir de la première diffusion, pour ainsi dire. Et après, c'est-à-dire qu'une émission qui a eu lieu en 1960 est aujourd'hui, en principe, libre de droit de production. De production, pas d'auteur. Après, il faut identifier les auteurs, qui sont les auteurs. Quels sont les contrats qui ont été signés? Pour les programmes anciens, il n'y a pas de contrat d'auteur pour les éclairagistes, pour les preneurs de vue, pour les costumiers. Aujourd'hui, il y en a pour tout le monde. Il y a même le droit nouveau qui est hyper compliqué, c'est le droit à l'image. C'est-à-dire que quand vous voyez sur les JT des questions à des gens dans la rue, il y a derrière ces gens deux, trois personnes avec des papiers qui signent des décharges, qui font signer des décharges. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce que votre interview, ou même le fait que vous voyez toujours, il y a un badaud qui regarde, on lui fait signer un papier, est-ce que vous êtes d'accord pour que votre image passe à la télé? Et s'il n'est pas d'accord, on le floute ou on le passe pas. Donc vous voyez, ça devient hyper compliqué. Et pour la musique, c'est un peu plus simple. Surtout pour la musique acousmatique, c'est hyper simple. Il y a l'auteur. Il y a aussi le producteur. Nous, on est producteur dans ce dispositif, le GRM, Donc j'ai commandé une œuvre au compositeur, il a joué, il garde son droit d'auteur, moi je garde le droit de producteur. Ça veut dire que je peux exploiter l'œuvre. Je peux la passer à la radio, je peux faire un CD, etc. Mais bien sûr, si je passe à la radio, il faut que je lui reverse le droit. Si j'ai fait un CD, il faut que je lui reverse le droit. Mais j'ai le droit de le faire, même sans lui demander son accord. Chose qu'on ne fait pas, mais...
Si par exemple, moi, je veux diffuser cette œuvre, je dois payer les droits du coup à l'auteur, non, à la maison, en fait...
Non, parce que normalement, les droits sont gérés par la société d'auteur. Donc, en principe, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais quand vous jouez une œuvre en concert, vous devez payer à la SACEM, même si le concert est gratuit.
Et si l'auteur, par contre, est d'accord pour ne pas créer de droits...
L'auteur peut vous demander, par ailleurs, d'autres, que vous le payiez pour jouer sa musique, indépendamment de la SACEM, en plus.
Mais le producteur, par contre...
Et le producteur peut s'ajouter à ça. C'est ce qu'ils font, et c'est le magnifique marché qu'étaient les éditeurs. Les éditeurs touchaient partout, à chaque fois qu'ils ont joué, parce qu'ils ont... Les seuls cas où vous pouvez partager vos droits d'auteur, c'est avec un éditeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre musique passe à la radio, l'éditeur ramasse 50%. Qu'il soit intervenu ou pas. Donc c'est pour ça que le compositeur considère que c'est proche de l'arnaque, parce que l'éditeur n'a rien à faire. Si le compositeur fonctionne, ils vont trouver des droits. Oui, mais Léna, vous ne les donnera pas si facilement. Mais ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Léna...
Le chiffre de
12-13 millions d'euros par an de vente d'extraits. Pour les JT, pour le documentaire, tout ça. Alors, il y a autre chose, c'est dans quel cadre vous voulez faire quoi. Si, par exemple, parce que ça nous est arrivé, mettons, vous voulez des images pour faire un projet artistique. Alors là, ça va être beaucoup, beaucoup moins cher. À condition que, ben, c'est pas, il y a, tu connais Sigi Shelly, un compositeur qui fait des musiques un peu acousmatiques, un peu pas mal en live avec des machines. Il a fait deux œuvres, une qui s'appelle Pétrole, où il utilise des images d'archives, de pétrole, tout ça. Et donc, Léna lui a donné les images presque pour rien, à condition qu'il ne fasse pas une diffusion radio-télé. Télé surtout, radio c'est. Télé, parce qu'à ce moment-là, les droits marchent à fond. Donc l'utilisation est importante. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces images? Et en sachant que les images ne se vendent pas, elles se louent. Vous êtes dans une situation de location. Vous les louez pour l'utiliser pendant 2 ans, pendant 3 ans, en France, en Europe, dans le monde. Ça, c'est pour la télé surtout. Donc, c'est un domaine hyper complexe. Alors, il y a une autre chose qui commence à avoir de plus en plus de sens, c'est ce qu'on appelle le domaine public. C'est les œuvres qui sont hors droit.
Parce qu'il y avait pas mal de films, je crois, ces années, qui sont tournés dans le domaine public, et des films... Ouais. Je ne sais plus, mais il y a eu une production, alors, le plan de l'année passée, genre, ah, il y a tout ça.
Oui, c'est pour ça qu'il y a sur beaucoup de choses, il y a des nouvelles éditions de temps en temps pour reprotéger l'œuvre.
Ah oui, parce que du coup, une fois qu'elle est rééditée, elle n'est plus
dans le public. Non, pas du tout. Mais des gens qui ont des catalogues des œuvres, qui justement vont faire une nouvelle édition avec des... Parce que, par exemple, nous, Léna a beaucoup bataillé pour que... Le fait de numériser une œuvre lui attribue de nouveaux droits de production. Et ça n'a pas marché du tout. La numérisation n'est pas une nouvelle. Non, il y a un mot, je me rappelle. Non, c'est pas ça. On renouvelle les droits s'il y a un changement dans l'œuvre. Il faut un minimum de changement. Sauf que ce changement n'est pas bien défini, de combien, quel pourcentage, tout ça. Donc, mettons que j'ai une œuvre écrite, je fais une version illustrée. Donc voilà, là, je reprends pour 50 ans.
Par contre, tu la numérises, ça ne marche pas.
Je la numérise, ça ne marche pas.
Ce qui fait que c'est le nouveau produit qui reprend pour 50 ans, mais le produit d'avant, lui, il est tombé dans le domaine public.
Il reste dans le domaine public. Il reste dans le domaine public. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on considère étant l'objet de départ. C'est-à-dire, par exemple, nous, on valorise notre fonds en faisant des CD. Donc, les œuvres de Schaeffer, la plupart, sont dans le domaine public. Donc, on a publié le CD avec les œuvres dans le domaine public. Et nous avons les droits sur notre édition, pas sur l'œuvre. Donc, si vous utilisez notre CD pour faire un concert, voilà, là, nous faisons valoir nos droits. Donc, tout ça est si difficilement vérifiable.
Parce qu'il y a des œuvres aussi qu'on n'a pas trouvées ailleurs, en fait, parce qu'elles ne sont pas sorties des boîtes.
Mais oui.
Si l'éditeur, c'est le premier qui édite une œuvre, qui n'a jamais été édité avant et que les personnes qui l'avaient n'ont jamais sorti, en fait.
Non, l'œuvre va rester dans le domaine public. C'est l'édition. C'est l'œuvre dans l'édition qui n'est pas dans le domaine public.
Sauf que ce qui ne sort jamais, c'est
l'original. Oui, mais c'est l'original qui ne sort jamais sur les éditions.
Pour qu'on puisse payer tout le temps. Ça se rachète.
Voilà. Mais donc, c'est toute la crainte de tous les détenteurs d'œuvres par rapport à la copie. Parce que faire beaucoup de copies d'œuvres implique plus de possibilités, une fois dans le domaine public, que d'autres s'en approprient. C'est-à-dire que nous, on a fait ce qu'on considère l'édition de référence de Schaeffer. Vous ne pouvez pas la faire, puisque vous n'aurez pas accès à beaucoup des œuvres qui sont de vous ne pouvez pas prouver la bonne foi de la copie. Ça se joue à des choses comme ça.